Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Il quitte la Pologne avec ses amis. Il descend vers Venise où il va rester pendant 6 mois avant de venir hériter le trône de France.
RTL.
Après son séjour à Venise, ce n'est plus le Henri que l'on connaissait auparavant. Il est rentré très efféminé, Henri III.
Jusqu'à 22h.
Henri III est couronné en février 1575 et la même année, il épouse Louise de Lorraine, dont il n'aura pas d'enfant.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est un voyage dans le temps que l'on vous propose maintenant sur RTL. Direction 1588, le royaume de France est déchiré, la guerre fait rage entre catholiques et protestants. Deux hommes se font face, Henri III, on vient d'entendre les conditions dans lesquelles il a accédé au trône, et le duc de Guise. Bonsoir Denis Lépée.
Bonsoir.
Bienvenue. Bonsoir. Vous êtes romancier, passionné d'histoire de France. Votre dernier livre, Le Loup et le Lion, nous plonge dans cette année, dit 1588. Pourquoi cette date? Pourquoi est-elle importante?
Elle est importante parce que c'est une date charnière. Pour moi, c'est une des dates qui marque la séparation entre finalement la France du Moyen-Âge, la France médiévale, Et la France moderne, celle qui va se construire petit à petit autour de l'unité du royaume et aller vers la monarchie absolue.
Alors on détaille un peu le contexte, on est une quinzaine d'années après la Saint-Barthélemy, mais les plaies sont loin d'être refermées, c'est ça ?
Alors elles sont très loin d'être refermées, on est en pleine guerre civile. En fait en France à cette époque, on est dans une guerre civile larvée presque permanente. La guerre qui se déroule en 1588, elle a commencé en 1585, c'est la 8e guerre de religion. De 1560 à la fin du siècle, la France est perpétuellement en guerre, protestants et catholiques s'affrontent partout, sur tout le territoire.
Ça veut dire qu'il y a des combats, c'est pas simplement des règlements de compte entre les puissants, c'est des vrais combats.
Non, c'est une vraie guerre civile avec des petites troupes, pas très nombreuses, parfois entre les bandits et les hommes de guerre. Mais c'est pas une guerre avec des fronts, c'est pas une guerre avec de grandes armées, non, c'est une guerre partout. En 1587, quand commence le roman, on se bat par exemple dans le sud, à Coutras, là où les armées du roi, dirigées par le duc de Joyeuse, il va lui perdre la vie, affronte les protestants. Mais au même moment, le duc de Guise, lui, affronte d'autres protestants à 50 km de Paris. Et puis on se bat aussi en Lorraine, et puis on se bat du côté de La Rochelle. On se bat un peu partout et ça fait du royaume de France un royaume en très mauvais état, très brutal et où les gens vivent dans cette insécurité permanente. C'est une vie terrible. C'est celle qu'a vécu Montaigne qui vit à cette époque et qui a vécu perpétuellement dans un monde de guerre. Il a failli être tué à la fois par les catholiques et par les protestants d'ailleurs.
Alors Denis Lépée, on va s'attacher maintenant aux personnages historiques qui rendent votre roman passionnant. Il y a le duc de Guise, vous venez d'en parler, Henri III, roi de France, sa mère, Catherine de Médicis, sans oublier Henri de Navarre, le futur Henri IV, et puis le maire de Bordeaux, un certain Michel de Montaigne. Alors, honneur au monarque, qui est Henri III? C'est un loup?
C'est un roi étrange, d'abord parce qu'il a été roi de deux royaumes. Il a été roi de Pologne avant d'être roi de France. Il a quitté son royaume de Pologne un soir, presque à la dérobée, pour venir rencontrer son véritable destin, celui qui l'attendait, être lui aussi roi de France, comme deux de ses frères.
C'est le dernier des Valois, c'est ça?
C'est le dernier des Valois parce qu'il n'a pas de descendance. Et c'est d'ailleurs la raison de la guerre civile. Il n'a pas de descendance. Le trône de France peut à ce moment-là passer à Henri de Navarre, protestant. C'est insupportable pour la Ligue catholique. Et c'est ça qui, en 1584, ranime la guerre de religion qui fait rage en 1588.
Henri III fait tout pour garder le pouvoir, c'est ça son obsession?
Henri III fait tout pour garder le pouvoir parce qu'il l'a. Quand on a le pouvoir, en général, on essaie de le garder. C'est plus facile quand on est roi de source divine. Mais il essaie aussi de contenter un peu tout le monde. Il est critiqué et attaqué par les protestants. Il est critiqué de l'autre côté par les catholiques qui ne le trouvent pas assez catholique, les protestants le trouvant trop catholique. Il essaie de contenter un peu tout le monde et il essaie de donner des gages des deux côtés et de négocier avec tout le monde en même temps.
Et si Denis vous demandait, est-ce que c'est un loup, parce que c'est le titre de votre roman, Le Loup et le Lion. Le lion, c'est le duc de Guise, on en parlera tout à l'heure. Le loup, c'est Henri III, c'est le chef de la meute en quelque sorte.
C'est le choix du roman, oui, d'en faire un loup. C'est un chef de meute, ça c'est certain. Et c'est également un homme très calculateur, un homme plein de, on pourrait dire, de perfidie, en tout cas assez retors, capable d'être dans ces complots qui sont aussi au cœur de cette histoire. Complot, trahison, assassinat. Donc à ce sens-là, oui, il ressemble au personnage du loup.
Est-ce qu'il est sous l'influence de sa mère, de Catherine de Médicis?
Il est sous l'influence de sa mère, oui, absolument. C'est une femme extraordinaire, c'est sans doute peut-être l'homme d'État de l'époque. Elle a été reine de France, Elle a été régente après la mort de son mari, avant l'avènement du premier de ses fils. Elle aura été la mère de trois rois de France.
C'est une Italienne d'origine ?
C'est une Italienne et devenue portée par ce destin formidable, un peu par hasard. Parce que finalement, elle était venue en France épouser le deuxième fils de François Ier, pas celui qui était appelé à régner. Normalement, c'est François qui aurait dû succéder à François Ier. Mmh. Elle épouse son frère, elle est duchesse de Bretagne. Elle est là pour renforcer l'alliance voulue par le pape entre François Ier et l'Italie. Mais elle n'est pas destinée à régner.
Et puis la cour se moque d'elle. Avec son accent italien, c'est ça ?
La cour se moque d'elle, et puis c'est très difficile pour une jeune fille, une petite fille de 15 ans, arriver là, jetée au milieu de cette cour qu'elle ne connaît pas, d'un mariage de gens, un mari qu'elle ne connaît pas. Mm-hmm. Enfin, c'est très, oui, ces premières années sont très, très curieuses, très difficiles. Il y a beaucoup de souveraines de France qui ont vécu comme ça, arrachées à leur pays, des moments difficiles. On connaît Marie-Antoinette, mais enfin, il y a ce genre de dépaysement. Mais devenue reine presque par hasard, elle a ensuite incarné une volonté de maintenir l'État, de défendre la France, avec des convictions politiques très fortes, qui l'amènent d'ailleurs à s'opposer à ses fils lorsqu'il régnait. Et notamment, elle a eu des débats très violents avec Henri III.
Denis Lépée, dans votre roman Le Loup et le Lion aux éditions Plon, parmi les personnages qui entourent notamment le roi Henri III, il y a les fameux mignons. Qui sont-ils ?
Alors les mignons, ce sont les compagnons du roi, ceux qu'il avait choisi d'élever au détriment des grands de France, comme Guise, les grandes familles, qui jugeaient qu'il était légitime que ce soit eux qui entourent le roi, que ce soit eux qui le conseillent.
Ils sont conseillers donc ?
Eh bien non,
Amand
Henri III,
est conseiller.
Alors Amand, c'est la légende noire, on ne sait pas très bien ce qu'était Henri III. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait choisi ses compagnons, qu'il leur avait donné la fortune, qu'il leur avait donné le pouvoir politique, le pouvoir militaire, il leur avait donné des titres. Ils étaient immensément riches, ce qui avait suscité d'ailleurs la jalousie des grands de France. Ils étaient beaucoup plus riches à l'époque. Un duc de Joyeuse a des revenus très supérieurs à ceux d'un Guise, qui lui a principalement des dettes.
Mais c'est Henri III qui les appelle les mignons ? Ça fait pas très sérieux comme appellation.
C'est pas Henri III qui les appelle les mignons, c'est la légende et le peuple qui les appelle comme ça. Il y a à cette époque-là beaucoup de propagande, des deux côtés. On a gardé l'image d'un Guise personnage noir parce que l'histoire étant faite par les vainqueurs, en l'occurrence c'est Henri III qui a gagné, et donc la légende noire du duc de Guise est restée. Mais à la même époque, il y a une légende noire d'Henri III, très violente, qui en fait un personnage satanique et qui évidemment dit il est loin du peuple, il est loin de la France, et il est lié à ses mignons, cette petite cour autour de lui. Et donc on porte beaucoup de vérité ou calomnie, c'est difficile à savoir, autour du roi.
Donc il aime les hommes et les femmes, Henri III ? On ne sait pas non plus.
En tout cas, il aimait les femmes, les hommes peut-être, jusqu'où on ne le sait pas. Et le fait qu'il n'ait pas eu d'enfant a sans doute nourri également cette légende.
Henri III est un loup et face à lui, dans cette année 1588, où le trône de France vacille, il va donc trouver un lion, c'est le duc de Guise. Il est grand, il porte beau et on vous le présente tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Bien que très intelligent, Henri commet toutes les erreurs que ne doit pas faire un bon politique.
RTL.
Le plus offensant aux yeux du monde est le désintérêt du roi pour la chasse.
Jusqu'à 22h.
Ses centres d'intérêt ont un caractère plus féminin, comme la mode et les bijoux. Cela suffirait à dresser la France contre lui.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et ce soir sur RTL, nous sommes à la fin du XVIe siècle, à la cour du roi de France, Henri III. Et grâce à notre invité, le romancier Denis Lépée, on va découvrir maintenant un personnage mythique, un homme dont le seul nom pouvait provoquer à l'époque le soulèvement des Parisiens. C'est le duc de Guise. C'est qui Henri de Guise ?
Henri de Guise, c'est un chevalier, c'est un homme du Moyen-Âge. C'est l'héritier d'une des plus grandes familles de France. C'est un homme jeune, marqué dès son enfance par la disparition de son père, assassiné l'année même du début des guerres de religion. Et toute sa vie, c'est cette fureur à la fois, cette guerre, cette violence, et en même temps l'idée d'être porteur de choses qui le dépassent, et notamment d'une lignée, d'une famille et d'une certaine idée de la France.
Comment il est représenté sur les tableaux, le duc de Guise, Henri de Guise, il ressemble à quoi ?
Alors, il ressemble alors en partie à ce qu'il était, c'est-à-dire un homme grand, élancé, très grand pour son époque, hein, probablement plus d'un mètre 80, donc une grande stature. C'est un guerrier, c'est un soldat, un homme de guerre, des pommettes saillantes, un air d'oiseau de proie, un regard très perçant, et puis cette balafre fameuse qu'il avait, qu'avait aussi son père d'ailleurs, c'est presque, mais à force d'être sur les champs de bataille, on récolte des cicatrices, cette balafre qui lui traverse tout le visage et qui lui donne cet air effectivement inquiétant.
Alors vous dites un air d'oiseau de proie, et pourtant dans votre livre, vous le qualifiez comme un lion. Pourquoi ? Parce qu'il refuse de hurler avec les loups dans la même meute ?
Oui, parce qu'en tout cas, il est différent de cette meute, il est à part, et puis c'est un lion parce qu'il incarne oui, ses valeurs de chevalerie. Il y a d'un côté une époque vouée au complot, aux manœuvres, aux assassinats. Moi, j'ai choisi de voir du côté du duc de Guise quelque chose de plus droit.
Oui, dans Le Loup et le Lion, publié chez Plon, vous lui donnez le beau rôle.
Oui, très, je lui donne le beau clairement. Rôle, c'est le choix du romancier.
Est-ce qu'il était, bien sûr, et ça rend le roman passionnant d'ailleurs, parce qu'on a envie de le connaître, ce duc de Guise. On pense aux grands hommes de notre histoire,
évidemment. Et vous l'avez magnifié.
Qui ont marqué l'histoire. Alors, est-ce qu'il était aussi vertueux, plus soucieux de la France que de son propre intérêt? C'est ce qu'on ressent
je
dans
pense
le roman.
Je pense qu'il était porteur du sentiment de quelque chose qu'il dépasse, oui, quelque chose qui dépasse sa personne. Ça n'empêche pas qu'il était ambitieux, dévoré même d'ambition. Il a sans doute rêvé d'accéder au trône. Mais moi, j'ai voulu le peindre tel que je l'ai toujours imaginé. Moi, j'ai rencontré le duc de Guise un jour au château de Blois. J'étais petit garçon et je visitais le château. On m'a montré cet endroit là où ce grand homme était mort. C'est toujours très curieux de voir les lieux et de voir l'endroit où ça s'est passé. Et depuis, j'ai toujours le sentiment d'avoir un peu cheminé avec lui. C'est pour ça que j'avais envie depuis longtemps d'écrire ce livre.
Alors, en ces années 1587-88, le duc de Guise est interdit de séjour à Paris. Pour quelle raison ?
Parce que le roi a peur. Paris est une ville étrange. C'est la première fois en 1588 qu'elle va se soulever, comme elle le fera après souvent. Paris est une ville très autonome. Elle est à la Ligue, donc aux catholiques ultra. Leur champion est le duc de Guise. Et le roi a peur il a peur de sa ville, il a peur des habitants, il a peur que l'entrée du duc de Guise donne l'occasion de faire une sorte de coup d'État.
Il vit où le roi à l'époque? Au Louvre.
Au Louvre.
Oui, c'est ça. Et donc, il y a cette journée du 9 mai 1588 que vous racontez dans le roman. Ce jour-là, le duc de Guise brave l'interdiction et rentre dans Paris.
Il entre dans Paris contre la volonté du roi. Il va d'ailleurs le voir pour lui dire que ce n'est pas du tout contre lui, mais c'est pour rassurer les Parisiens, parce que les Parisiens entendent les rumeurs qui disent que les Suisses, les régiments du roi vont entrer dans Paris, vont massacrer les Parisiens. Et le duc de Guise dit « Moi, je suis là pour calmer le peuple et pour éviter que continuent de s'ériger ces barricades. » Le mot est né ce jour-là, hein, des barricades, parce que les Parisiens au Faubourg Saint-Germain ont mis des barriques à travers les rues pour barrer la route aux Suisses avant de les bombarder de divers projectiles du haut des immeubles, ce qui a causé un certain nombre de morts dans leur rang.
Et c'est vrai que le duc de Guise était, pour employer des mots d'aujourd'hui, une espèce de star, c'est-à-dire que la rumeur de la foule le précédait quasiment au rythme du pas de son cheval quand il progressait dans les rues de Paris.
Oui, absolument. Il traverse Paris. Si on voulait le comprendre dans des concepts contemporains, on aurait des gardes du corps effrayés autour parce que il voulait pas porter. Il n'existait pas de gilet pare-balles, mais c'est la même idée. Il voulait pas porter d'armure. Il voulait être là. En pourpoint, en blanc, effectivement, sur un cheval blanc. Donc, il y a toute une mise en scène très forte.
C'est du storytelling, ça. Le blanc, c'est la pureté. Il ne choisit pas cette couleur
par
hasard.
Oui, il ne choisit pas cette couleur par hasard. Et lui, qui est un guerrier, il n'entre pas en armure d'or et noir. Non, non, il entre en blanc et il dit « Mais moi, je ne viens pas chercher le pouvoir. Je viens rencontrer le peuple et l'aider à se rassurer. »
C'est pas la couleur de l'époque, le blanc? En tout cas, pas pour les guerriers?
C'est pas typiquement la couleur qu'ils prennent le plus. Non, c'est salissant.
On peut dire ça. Oui. Henri de Guise sera finalement assassiné, en blanc ou pas. C'est dans quelles conditions ?
Il est assassiné au château de Blois en décembre 1588. Il a à ce moment-là, c'est curieux parce qu'il est assassiné au moment où il a tout gagné. Après la journée des barricades, le roi est obligé de fuir Paris. Guise à la ville, il pourrait presque prendre le pouvoir, il pourrait renverser le roi. Il ne le fait pas parce qu'il est un homme du Moyen-Âge, on ne renverse pas le roi. Mais il l'oblige à accéder à tous les désidératas de la Ligue. Il est nommé lieutenant général du royaume, il a les armées, il a le pouvoir militaire. Il oblige le roi à convoquer des états généraux. Et c'est à la fin de ces états généraux à Blois que le roi le fait venir dans sa chambre.
Il est prévenu par ses proches, on lui dit c'est un complot,
on
n'y va pas.
On va t'assassiner. Et il y va seul parce que le seul endroit où on va seul, c'est au conseil du roi. Il ne peut pas se faire accompagner, il n'a pas de garde du corps. Il entre, il y a là une dizaine de types qui sont là pour l'assassiner. Et jusqu'au dernier moment, il n'y croit pas, sans doute par orgueil et par fierté. Il croit que le roi n'osera pas. Il est tellement puissant à ce moment-là qu'il pense que le roi n'en sera pas capable.
Et il va se faire assassiner.
Et il est assassiné.
Vous étiez au château de Blois, ce que vous nous racontiez tout à l'heure.
Alors, pas ce jour-là, mais...
Non,
mais...
Bah, vous aviez que vous avez rencontré le duc de Guise.
Je pensais que vous aviez une machine à voyager dans le temps. Alors, on nous a vendu ça, on est déçus. Non, mais sérieusement, la chambre, le lieu où ça s'est passé, évidemment, on peut la visiter.
Absolument, on peut la voir. Il y a un très beau portrait des trois frères Guise dans cette chambre. Et le château de Blois est très beau et on peut voir tous ces lieux, effectivement.
Qu'est-ce qui est arrivé aux Guise, à ses enfants, puis à ses descendants?
Alors, il y a eu un peu de, pour faire un anachronisme terrible, un peu de vendetta. Son frère, le cardinal de Lorraine, a été assassiné le lendemain. Les deux corps ont été brûlés dans les douves du château de Blois pour éviter qu'il puisse y avoir des pèlerinages et toutes sortes de choses. Donc, on est vraiment dans une violence terrible. Le reste de la famille s'est un peu écarté et a été un peu plus discret, mais bon, il y a eu quelques assassinats à la suite. Il n'y a plus de figure à la hauteur du duc de Guise. Il y a eu d'autres ducs de Guise, mais il n'y a pas eu de figure à la hauteur d'Henri Ier.
Et en situation de prendre le pouvoir, un autre grand homme a croisé ce duc de Guise, mais aussi Henri III, un intellectuel, un philosophe que l'on découvre en homme politique. C'est le maire de Bordeaux, un certain Montaigne, Michel de Montaigne.
Vous écoutez RTL.
Pleurez, pleurez, fidèle royaliste.
La curiosité est un vilain défaut.
Le 1er août 1589, Henri III, posté avec l'armée royale au château de Saint-Cloud, prépare une offensive pour reprendre Paris, quand un jeune dominicain fanatique est autorisé à lui remettre des documents importants.
Il fut tué par un méchant mutin, Jacques Clément.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Il y avait du rythme dans les chansons de la fin du XVIe siècle.
Votre déhanché m'a fait peur.
Oui, c'était impressionnant. On visite en tout cas ce soir dans la curiosité le Paris de cette fin XVIe, ville où, vous l'avez compris, ont eu les rois et les ducs. Paris, capitale d'une France où catholiques et protestants se combattent et s'entretuent. Denis Lépée, dans votre roman Le Loup et le Lion, qui est publié chez Plomb, vous racontez cette époque d'intrigue, de complot. Et alors, ce qui est génial, c'est que vous nous embarquez aussi dans Paris. Et on a envie de savoir, en tout cas que vous racontiez aux auditeurs d'RTL, à quoi ressemblait le Paris de cette époque.
Alors c'était une ville assez petite finalement par rapport au Paris que l'on connaît. Paris à cette époque-là a environ 250 000, 300 000 habitants, quelque chose comme ça.
Ça va jusqu'où? Je sais pas, les limites.
Alors, par exemple,
la campagne,
si
elle démarre.
La campagne, elle commence. Si vous prenez elle commence à la Bastille à l'est. La Bastille est la limite de la ville. Mm-hmm. Elle commence pas très loin au-dessus des Halles et de la Porte Saint-Martin au nord, et immédiatement après Saint-Marcel au sud. Mm. C'est assez étroit. Et à l'ouest, il n'y a quasiment rien.
C'est beaucoup plus petit, évidemment.
Après le Louvre, il y a très peu de choses, finalement.
Alors, Denis Lépée, vous nous projetez là dans le Paris de 1588. Qu'est-ce qui nous marquerait si on était, nous, vraiment projetés à cette époque-là? L'odeur, par exemple?
Sans doute le nombre de clochers d'églises, extraordinairement frappant à l'époque. Beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Sans doute aussi sur les ponts, les maisons sur les ponts. Tous les ponts sont habités. Et puis, l'étroitesse des rues. Et sans doute, quelques odeurs désagréables.
Vous en parlez dans votre roman, comment étaient évacués les déchets?
Alors, périodiquement, il y avait des services d'enlèvement. Depuis le début du XVIe siècle, il y a des services d'enlèvement des ordures. Mais comme il faut également créer des impôts pour les financer, c'est pas très populaire. Et généralement, tous les 10 ans, on était obligé d'arrêter parce que la foule se révolte.
Donc, on balançait les déchets dans la rue?
Alors, on les balançait, mais il y avait quand même des...
Les rues, quand on visite des villes anciennes, on voit que les rues sont un peu en V avec une rigole
c'est
au
vrai,
milieu.
C'est vrai, il y avait ces rigoles. Les rues étaient pavées. Alors ça, c'était le premier succès déjà. Les rues avaient été pavées, mais ça remonte au XIIIe siècle. Mais il y avait des services d'enlèvement, des chiffonniers, des gens qui passaient. C'était assez mal organisé. Il faut attendre la fin du 17e pour que ça s'organise un peu plus. Et puis les égouts, c'est bien, bien après.
Et Denis Lépée, Paris, c'est aussi une ville de fêtes. C'est ce que vous décrivez. Vous racontez notamment dans votre roman Le Loup et le Lion chez Plomb une soirée théâtrale à l'Hôtel de Bourgogne. C'est un lieu qui existe toujours?
Alors, l'Hôtel de Bourgogne lui-même n'existe plus. Il reste une petite tour du côté des Halles, un tout petit bout. Comme l'hôtel de Guise, d'ailleurs, dont il reste juste deux tourelles. Mmh. Mais l'hôtel de Bourgogne lui-même n'existe plus. En revanche, c'était le premier théâtre de Paris. Ce n'était pas un véritable théâtre, d'ailleurs, puisque c'était en fait une scène et des gradins installés à l'intérieur de l'hôtel de Bourgogne. Donc l'hôtel de Bourgogne avait été aménagé en.
Dans une espèce de cour intérieure, en quelque sorte.
Exactement, ouais. Exactement.
Il n'y avait pas de théâtre, au sens où on l'entend aujourd'hui.
Il
n'y
avait pas de théâtre, le lieu, non, construit tel quel. Il n'y avait pas de salle de théâtre. C'est le premier qui a ouvert vers 1550. Il est devenu la résidence des comédiens italiens du fait de Catherine de Médicis vers le milieu des années 1570. Et c'est un des rares endroits où on joue du théâtre.
Et j'ai appris en lisant votre livre que le théâtre était un enjeu politique. C'est-à-dire que les protestants avaient interdit le théâtre, c'est
ça ? Tout le monde a interdit le théâtre. Il faut rappeler quand même que les comédiens sont excommuniés à cette époque. Hein.
Ah oui, c'est vrai.
Et ça dure très très longtemps. Hein. Molière n'aura pas de funérailles religieuses. Et il faut abjurer sa profession de comédien pour être enterré religieusement. Alors ça, c'est vrai donc globalement de tout le monde. Et c'est vrai que les protestants n'étaient pas tellement plus tolérants avec le théâtre. Il y a eu un synode dans le sud de la France protestant vers 1570 qui avait aussi interdit radicalement toute représentation théâtrale.
Alors Denis Lépée, dans ce Paris de la fin du XVIe, on croise le maire de Bordeaux, c'est Michel de Montaigne. En 1588, il n'avait pas encore publié ses fameux essais.
Alors si, il en avait publié, mais il n'avait pas tout publié parce que Montaigne a un truc extraordinaire, c'est qu'il avait publié deux livres des essais déjà à partir de 1572, mais il continuait perpétuellement à travailler son texte. Et donc en 1588, il vient à Paris pour corriger chez son imprimeur le troisième tome des essais, mais qui au début n'existait pas. Et il réécrivait en permanence les choses, il rendait fou son imprimeur.
C'est un conseiller d'Henri III ?
Non, c'est un homme politique, il est à la fois, il joue un rôle politique de négociation entre Navarre, le protestant, et Henri III. Il a un rôle de diplomate, on pourrait dire ça, mais pas très officiel, il œuvre dans l'ombre.
Alors vous faites rencontrer Michel de Montaigne et le duc de Guise dans votre roman. C'est une rencontre qui a vraiment eu lieu ?
Alors, c'est extraordinaire. Cette année 1588, ils sont presque tout le temps au même endroit. Montaigne vient corriger son livre à Paris. Le duc de Guise rentre à Paris. Alors, on ne sait pas s'ils se sont rencontrés. Moi, j'ai voulu faire cette rencontre parce que je trouve formidable dans cette période qu'on croise à la fois des chevaliers, des hommes d'histoire, des philosophes. On n'a pas tendance à les étudier toujours ensemble. Moi, je trouve assez formidable de les rassembler. Donc, ils sont ensemble à Paris. Et puis, Michel de Montaigne fuit avec le roi. Et puis, il revient à Paris parce qu'il faut toujours qu'il corrige son livre. Et là, il fait quand même une erreur. Donc, il est attrapé par les catholiques ultra qui se disent qu'il le découperait bien en morceaux. Il commence par le mettre à la Bastille. Et sur l'intervention de Catherine de Médicis, c'est le duc de Guise qui le fait libérer. Et puis enfin, ils sont ensemble à nouveau lors des états généraux de Blois, puisque Montaigne est à Blois. Et il écrit dans son journal, le lendemain de l'assassinat du duc de Guise, cette phrase terrible, « Le bien public requiert qu'on trahisse et qu'on mente et qu'on massacre ».
Ça, c'est signé Montaigne. Est-ce que c'était un politicien ? Il était maire de Bordeaux, mais est-ce que un politicien ?
Non, il a été maire de Bordeaux pendant 4 ans. Il aimait beaucoup la vie politique. Il a eu ce rôle de diplomate. Ce n'était pas au sens propre un homme politique, non.
Un dernier mot sur un dernier personnage, et non des moindres, c'est Henri de Navarre. Vous l'avez évoqué plusieurs fois dans cette interview, Denis Lépée. C'est le futur Henri IV. A-t-il demandé la tête du duc de Guise à Henri III ?
Alors, historiquement, je ne sais pas s'il a demandé la tête du duc de Guise à Henri III. En tout cas, l'assassinat du duc de Guise n'a pas dû le remplir de déplaisir.
Ça lui ouvrait la porte du pouvoir, d'une certaine façon ?
Absolument. Ça enlevait une rivalité terrible sur le chemin du pouvoir. Oui.
Et Henri IV, assassiné par Ravaillac le 14 mai 1610, il ne faisait pas bon d'être roi de France à l'époque, non ?
Non, il ne faisait pas bon, mais même le duc de Guise, qui n'a pas été roi de France, a été assassiné. Henri III a été assassiné, Henri IV a été assassiné. Oui, effectivement, c'est une époque très violente.
Et la violence de cette époque, vous la restituez parfaitement dans votre roman Le Loup et le Lion. C'est publié chez Plomb. Merci beaucoup, Denis Lépée, d'être venu partager votre passion de l'histoire.
C'est la fin de cette émission. On s'est encore raconté des histoires fantastiques ce soir. Vous pouvez podcaster l'émission, évidemment, sur rtl.fr. Et puis, on a le plaisir de vous retrouver tous lundi à 20h. Salut à tous.
On sera là, soyez là vous aussi. Salut à tous, tout de suite c'est l'heure de retrouver Le Grand Soir, RTL, il est 22h.
Vous écoutez RTL.